Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour écouter cette rencontre en duo avec Pauline Delabroix-Allard et Joachim Schnerf. Bonjour à tous les deux. Pauline Delabroix-Allard, vous avez publié au début du mois de septembre aux éditions de Minuit « Ça raconte Sarah », qui est votre premier roman et c'est aussi le seul roman publié par les éditions de Minuit pour la rentrée. C'est une histoire de passion entre deux femmes. Le livre est extrêmement musical, structuré en thèmes et variations et en deux parties assez différentes dans l'écriture. Alors on pourrait dire l'amour et le désamour, mais plutôt l'amour et la fuite, et l'amour et l'après, et comment on s'exile au fond dans une ville étrangère. Ce livre est écrit à la première personne du singulier. Joachim Schnerf, après « Mon sang à l'étude » paru en 2014, vous avez publié au mois de janvier dernier « Cette nuit » aux éditions Zulma, un livre qui a obtenu le prix Orange du livre. Alors ce roman est aussi écrit à la première personne du singulier. Votre narrateur n'est pas une jeune femme, mais un vieil homme. Salomon, il est juif, il est rescapé des camps et il vient de perdre sa femme, qui s'appelle aussi Sarah. Nous sommes au matin de Pessah, la Pâque juive, et Salomon s'apprête à vivre cette soirée en famille, sauf que c'est le premier Pessah que cette famille va vivre sans Sarah, qui était un peu le pilier qui faisait tenir debout cet édifice. Alors il y a des thèmes communs entre vos deux livres, on va essayer en tout cas d'en trouver, même si c'est pas évident comme ça au premier abord, à part ce personnage qui s'appelle Sarah dans les deux cas, mais on pourra parler de l'amour, de la perte, du rituel aussi, qui est un thème je trouve important dans vos deux livres. On va commencer avec vous Pauline, le point de départ de ce livre au fond, est-ce que c'était tout simplement l'écriture de la passion, d'une passion, faire une espèce d'observatoire de la passion de l'intérieur?
Oui, c'est ça. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé d'histoire d'amour, enfin d'un roman sur l'amour. C'est plus un roman sur la passion, exactement. Et j'avais envie qu'on puisse y lire ce qui constitue une passion depuis la naissance, enfin même un tout petit peu avant la naissance, jusqu'à la fin, parce que contrairement, enfin moi, le distinguo que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'un amour peut durer, comme c'est dans le cas d'ailleurs dans le livre de Joachim, alors qu'une passion, une passion prend fin. Et du coup, j'avais envie d'écrire ça. Comment d'un coup, comment on vit sa vie et d'un coup, il se passe quelque chose et voilà.
Et avec ce double sens du mot passion, c'est à la fois ce qui embrase et ce qui a servi.
Exactement, c'est ça aussi que je fais comme différence avec l'amour. C'est-à-dire que la passion, c'est quand même du côté de la mort aussi. Enfin, très rapidement, on s'en rend compte, et puis j'avais envie d'écrire ça.
Joachim Schnerf, comment est né ce narrateur, ce Salomon, qui pour le coup est très très loin de vous? C'est une voix, vous l'avez écrit d'abord en entendant cette voix?
Alors oui, Salomon n'a pas tout à fait le même âge que moi, parce que non, je ne suis pas rescapé des camps, voilà. A priori. Salomon, c'était une voix, c'était aussi la voix du vieillard, en fait, qui est une voix, je pense, qui peut habiter aussi des auteurs plus jeunes. C'est Albert Cohen, quand il parle du génie de la littérature, qui aime dire que c'est un fou de la passion qui cohabite avec un vieillard qui observe le fou qui s'excite et qui pleure pour rien, qui pleure pour tout, qui pleure quand il perd sa mère autant que lorsqu'il perd ses clés, dit-il dans ses carnets. Et donc voilà, il y a toujours ce vieillard qui cohabite, qui le regarde, et je trouvais ça intéressant de prendre aussi cette partie du vieillard qui est en nous pour regarder les choses de manière posée et éventuellement parler d'amour, parce qu'effectivement c'est plus un livre d'amour qu'un livre de passion, et je trouvais ça intéressant de parler d'amour lorsqu'on a vécu un demi-siècle avec une femme, en l'occurrence pour Salomon et Sarah.
Voilà, c'est vraiment intéressant de voir comment d'un côté on a un amour qui embrase et de l'autre côté un amour qui s'est patiemment construit au fond.
C'est un amour de vie, un amour du mariage. Alors là, sans entrer dans des considérations maintenant religieuses ou traditionnelles, c'est un amour quasiment de la loi. Il y a un principe fondateur de l'amour juif qui dit qu'on trouve sa femme, désolé, c'est complètement misogyne, c'est dans ce sens-là, mais qu'on trouve sa femme, qu'on se marie puis qu'on aime. Il y a cette notion de l'amour qui est une sorte d'apogée du mariage en tant que foyer, en tant que chose qu'on bâtit. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui s'est construit. Après, reste la question de la mort. Lorsqu'on est en passion, lorsqu'on est en amour, lorsque la mort advient, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Et lorsqu'effectivement on a passé un demi-siècle avec quelqu'un, quand on a construit quelque chose avec quelqu'un, tout s'effondre d'un coup, et notamment le quotidien.
Parce qu'en effet, vos deux livres sont construits autour de la question de la présence et de l'absence, hein, le rapport au corps de l'autre. Votre livre, Pauline, commence comme ça, au fond, hein, la description de ce corps de Sarah.
Oui, c'est intéressant ce que dit Joachim, parce que moi j'ai le sentiment, contrairement à l'amour évoqué dans son livre, moi c'est quelque chose, donc c'est l'histoire, en deux mots pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est une narratrice qui tombe follement amoureuse d'un personnage féminin alors qu'elle n'avait jamais encore vécu de relations homosexuelles, et le personnage de Sarah dont elle tombe amoureuse non plus, donc c'est la surprise de l'amour qui leur tombe dessus à toutes les deux. Et à l'inverse de ce que disait Joachim, là pour le coup c'est soudain, c'est subi, c'est elles peuvent pas faire autrement que de s'aimer, et donc évidemment ça passe d'abord par le corps, et c'est aussi par ça que ça se termine, c'est-à-dire que le corps malade puis mourant va mettre fin, il y a que la mort qui peut mettre fin à la passion.
Puisque, en effet, si on revient sur ce prologue, c'est une description par la narratrice du corps de l'autre, et ce sont trois pages assez saisissantes, trois premières pages assez saisissantes, et on se rend compte que ce corps est un corps mort. Alors il y a tout un jeu dans votre roman entre réel, fiction. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que c'est la narratrice qui fantasme? Est-ce que cette mort est au fond l'allégorie de la fin de l'amour? Enfin, il y a tout ce jeu-là.
Oui, et puis surtout, le livre est construit en deux parties assez distinctes, aux écritures assez différentes. La première partie, c'est la rencontre, donc c'est le début de la passion, c'est un portrait surtout de femme du personnage de Sarah, et c'est une partie que j'ai voulu vraiment du côté du vivant, que Sarah représente une figure du vivant tout en étant un personnage qui s'échappe. Donc la mort rôde un peu comme ça, en creux dans le texte. Et à l'inverse, la seconde partie que j'appelle pour moi-même la partie de l'exil, parce qu'en fait, la narratrice fait ce geste-là elle est tellement dans un chagrin d'amour et elle est tellement malheureuse qu'elle fait ce geste de laisser sa vie et de partir. Elle part en Italie, elle part dans cette ville de Trieste qu'elle ne connaît pas, dans laquelle elle se retrouve un peu par hasard, et elle y va pour faire corps avec son chagrin d'amour. Donc donc c'est une partie qui pourrait être plus sordide, mais que j'ai voulu au contraire pleine de lumière, du côté que la partie plutôt morbide soit imprégnée de vivant finalement.
Joachim Schnerf, je voudrais revenir sur cette question de la présence et de l'absence. Enfin, le début de votre livre est très très fort. Salomon est dans son lit et il sent l'absence de sa femme Sarah qui vient de mourir quelques mois plus tôt d'un cancer. Et au fond, c'est toute l'habitude de la vie au quotidien qui soudain n'est plus là, à côté, là dans le lit, de manière très concrète.
Oui. C'est un livre sur l'amour, c'est aussi un livre sur le deuil, et le deuil en tant qu'apprendre à vivre sans quelqu'un. Donc je voulais quelque chose de positif, quelque chose de vital dans ce livre, mais c'est vivre avec l'absent. Et effectivement, dès les premières pages, dès les premières lignes, par réflexe, parce que voilà, ils ont vécu encore une fois des dizaines d'années ensemble, par réflexe, ils cherchent Sarah dans le lit, et c'est comme ça, et ils se rendent compte qu'il dort à la mauvaise place, qu'il dort à la place de Sarah, parce qu'en fait, plus concrètement, il cherche son propre corps. Il comprend pas que son corps soit à la place de Sarah. Donc il est c'est le réveil, il est encore dans la brume. C'est cette question-là de la place, de l'absent, et comment est-ce qu'on vit avec lui. Et pour moi, c'est l'enjeu du deuil qui réside ici, et de cette façon qu'on peut avoir de vivre sans quelqu'un, ou en tout cas vivre avec l'absence de quelqu'un, en l'occurrence Sarah.
Pauline parlait de la structure de son livre en deux parties. Votre livre a aussi une structure particulière, c'est que c'est un flux de conscience. On est dans la tête de Salomon, et puis s'invite à l'intérieur de ce flux de conscience des passages de repas de famille. Au fond, il attend cette soirée de Pessard, et il imagine ce que cette soirée va être.
Oui. En fait, il y a plusieurs temporalités, parce que donc effectivement, il y a le temps de la narration avec un livre qui commence au matin et qui éventuellement se finira le soir pendant le seder, pendant la célébration de la Pâque juive. Il y a effectivement les souvenirs, la projection de ce que serait cette Pâque. Et en fait, alors là, c'est une autre lecture, mais lorsqu'on lit le livre de manière linéaire, en fait, on vit un céder, parce que finalement, à force de reconstruire tous ces souvenirs et ces projections, en fait, c'est vraiment le déroulement d'un repas de Pâques, de la Pâque juive, avec ses chants particuliers, avec ses histoires, avec ses plats, avec ses questions que l'on pose de manière régulière chaque année, récurrente. Donc voilà, il y a ces différentes temporalités pour à la fin essayer de former une sorte de roman familial dans un flux de conscience, effectivement, mais c'est un roman, je pense, qui prend beaucoup plus en densité avec les souvenirs et avec les projections, parce qu'on y découvre de nombreux personnages, que sont les personnages de la famille, en fait.
Oui. Voilà, c'est un point commun supplémentaire, en fait, j'y pense, en t'entendant parler, parce que tu peux rappeler la question traditionnelle qu'on pose, c'est qu'est-ce qui...
Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits,
hein. Voilà, et en fait, finalement, dans mon livre, il y a aussi cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là entre Sarah et la narratrice.
On a écrit le même livre. Ouais. incroyable. Ils sont trop forts à Manosque.
Mais j'ai l'impression que, enfin, ce qui vous relie, c'est aussi la question du rituel. Alors le rituel, en effet, de la Pâque juive pour vous, Joachim. Mais il y a quelque chose de très rituel dans votre livre, Pauline aussi. La manière dont des choses reviennent. Hein, je parlais tout à l'heure de thèmes et variations. Il y a quelque chose qui rythme comme ça votre livre, comme un rituel, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai. Et surtout, moi, je me suis sentie assez proche de... Enfin, j'ai retrouvé des choses de mon livre.
On s'est préparé avant, hein, on vous rassure. Ça est organisé.
Dans le livre de Joachim, parce que enfin, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est... Parce que je pense qu'on a la même vision de ça, c'est que l'amour se niche dans des toutes petites choses. Et ça peut être un plat partagé ensemble, une odeur, qu'on a, voilà, un air de... Enfin, quand on est amoureux, tout fait sens. Et entre Salomon et Sarah, il y a cette chose-là. Et entre ma Sarah, moi, si j'ose dire, et la narratrice, il y a aussi cette chose-là. C'est des toutes petites choses qui font qu'on tombe amoureux et qu'on reste amoureux ou qu'on, voilà, qu'on... et pas finalement des grands bouleversements.
Et comment aussi on embrasse l'univers de l'autre, comment deux mondes a priori peut-être éloignés fusionnent dans l'amour. Enfin, et ça passe par des choses en effet très quotidiennes.
Je suis d'accord. Non, effectivement, quotidienne et dans le détail, comme tu le dis très bien, c'est dans ces petits interstices que se nient justement les plus beaux passages d'amour. Et même, on va pas faire des compliments tout le temps, mais dans le livre de Pauline, voilà, il y a des passages magnifiques justement. Aussi ces motifs répétés, voilà. Parce que voilà, c'est pas uniquement le détail, c'est aussi ce détail répété à chaque fois qu'on voit, je sais pas, j'ai pas de détail maintenant en tête, mais qu'on voit, je sais pas, cette même lumière sur le visage, c'est la répétition de cette lumière à chaque fois qui permet, voilà, de ressentir ce sentiment à la fois de confort amoureux et en même temps d'extrême instabilité lorsque l'autre n'est plus là et lorsque cette lumière nous fait penser à lui.
Ouais. Moi, je pensais aux scènes avec les fruits, en fait. Hein, et Sarah aime beaucoup manger des fruits, et donc elle a toujours un sac en craft rempli de fruits. Ce ne sont pas les mêmes fruits au fil des saisons. Est-ce que vous voulez bien lire un passage, alors, de la première partie ?
Elle m'offre l'aveu comme un cadeau. Ah oui, donc contexte. Le personnage de Sarah fait une déclaration d'amour au personnage de la narratrice qui ne s'y attendait pas vu qu'elle-même était dans une relation sentimentale avec un garçon et elle menait sa vie tranquillement. Donc voilà. Elle m'offre l'aveu comme un cadeau. Elle s'éloigne dans la nuit. Quelques jours plus tard, elle dit oui quand je lui propose d'aller au cinéma. Il y a un film d'Alain René qui vient de sortir. Il s'intitule « Aimer, boire et chanter ». Elle est en avance au rendez-vous. Elle a les yeux trop maquillés, ses yeux aux paupières tombantes. C'est le mois de mars. Elle opine quand je dis que c'est bientôt le printemps. Elle a faim, très faim. Elle demande si on peut aller manger un morceau avant le film. Elle commande une galette bretonne, du lait ribot. Elle a envie de boire une bière ensuite. Elle commande un demi de la bière la plus forte. Le serveur me demande ce que je veux. Pareil, exactement pareil. Elle raconte son dernier concert pendant que nous buvons nos bières. Elle me donne des précisions. Elle m'explique les choses que je ne comprends pas. Elle surprend mes yeux qui l'effleurent, qui soulignent le moindre détail de son corps, de son visage. Elle demande « À quoi tu penses ?» J'élude les questions. Je ne veux pas répondre. Elle insiste. « Allez, dis à quoi tu penses ?» Je ne réponds pas. Il y a l'aveu comme un cadeau entre nous, mes yeux baissés. Ça raconte ça, le silence tonitruant et les jours cotonneux dans lesquels on flotte quand on offre la vérité. D'autres bières après le film, les plus fortes du bar, et la même chose pour moi, pareil, exactement pareil. d'autres allumettes craquées qui éclairent ses yeux de serpent l'espace d'un instant avant que la nuit ne nous enveloppe à nouveau sur le trottoir où nous sortons fumer. D'autres mégots jetés nonchalamment, d'autres histoires racontées. Il est si tard, au bout d'un moment, que le patron nous dit qu'il faut qu'on aille se coucher, il va fermer, c'est le milieu de la nuit et il est fatigué. Le film « Aimer, boire et chanter » est un film dramatique français coécrit et réalisé par Alain Resnais, duré 108 minutes. À la distribution, on trouve Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Andrés Dussolier. Il s'agit du dernier film d'Alain Resnais, mort le 1er mars 2014. Je n'en ai aucun souvenir.
À quoi correspondent ces passages de définition ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? En fait, on a l'impression que vous faites des pauses dans votre récit, comme pour prendre un peu de distance avec cette passion trop forte qui emporte tout.
Oui, il y a plusieurs petits paragraphes comme ça que j'appelle pour moi-même d'écriture objective ou encyclopédique, enfin voilà, qui viennent parsemer le récit parce que j'avais envie que parce qu'en fait, la narratrice, voilà, elle a jamais vécu un truc pareil. Elle sent bien qu'elle revivra jamais un truc pareil. Elle est complètement débordée par cette passion qui la surprend. Et donc, c'est comme pour la rattacher à des choses très concrètes. Elle va chercher elle-même parfois dans le dictionnaire des définitions, comme pour se raccrocher à la réalité en se disant, mais non, mais voilà, en fait, donc c'est pour faire des pauses pour le lecteur aussi, parce que pour voilà, calmer l'embrasement qui prend corps. Et voilà, un peu comme une anesthésie, un peu pour dire, bon, c'est terrifiant, ça fait vraiment très peur, cette passion. C'est en même temps complètement exaltant, évidemment. Mais voilà, ces petits paragraphes viennent ponctuer le récit pour garder les pieds dans une réalité concrète.
Joachim Schnerf, je voudrais lire un passage de cette nuit. Alors, on va aussi recontextualiser. Donc, Salomon se remémore une scène avec sa femme Sarah, et c'est un moment, au fond, qu'on pourrait qualifier d'intimité retrouvée, de couple, quand les enfants sont partis. Nous étions couchés côte à côte, le même lit, la même lumière qui s'adoucissait à travers les rideaux avant de frapper nos visages, de gercer d'ombre nos lèvres déjà mûres. Les filles étaient parties la veille, un camp scout qui se déroulait quelque part dans le Périgord noir en ce mois de juillet. Sarah et moi les avions déposées à la gare avec leur sac à dos plus imposant que leur carrure d'enfant de 8 et 10 ans. Elles n'avaient pas paru stressées au moment de nous embrasser et de monter dans le train. Michel et Denise se tenaient la main, fiers dans leur uniforme. Elle suivait une animatrice qui me semblait bien jeune pour encadrer tous ces petits démons, mais passons, elle n'avait pas pleuré et s'était même montrée plus sereine que Sarah. Elle était encore tremblante quand nous sommes remontés dans la voiture. Les roues qui se dégagent en silence de la petite place de parking, la gare qui s'éloigne dans le rétroviseur, j'avais la sensation de blesser Sarah en l'emmenant aussi loin de Denise et Michel, même si c'était elle qui les avait inscrites au camp. Elle n'endormait pas depuis des jours. Et j'avais fait mon possible pour que les adieux se passent au mieux, sans blague déplacée sur le quai alors que tout était réuni pour le pire. Sans la bousculer, je la ramenais à la maison où une surprise l'attendait, un dîner aux chandelles avant de continuer la soirée au cinéma. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Il y a en effet cette belle intimité retrouvée entre ce couple qui s'est, on le comprend, consacré à ses enfants, à ses deux filles pendant une dizaine d'années. On fait aussi connaissance dans ce passage avec leurs deux filles, Denise et Michel. Les relations dans cette famille sont quand même assez compliquées. Donc Denise est l'aînée, elle est plutôt effacée. Et puis Michel est le volcan, une personnalité très, très colérique qui en fait baver quand même à son entourage, on peut le dire. Et puis Salomon dit, voilà, je me suis retenue pour ne pas faire de blagues. Il faut dire que Salomon a une particularité. Il fait régulièrement, comme par provocation, des blagues sur la Shoah.
Voilà ce qu'il appelle lui-même son humour concentrationnaire. Salomon est rescapé des camps, et comme beaucoup de rescapés, pour ne pas dire la plupart, il n'a pas pu parler de ça à son retour. Il n'en a pas parlé, pas même avec la femme avec qui il vit, avec Sarah, qui a essayé de lui poser des questions. Voilà, il ne peut pas raconter ça. Il n'a pas pu en parler non plus à ses filles. Et finalement, pour lui, l'un des seuls moyens de de prononcer le mot Auschwitz, de prononcer le mot chambre à gaz, c'est de faire une blague, c'est de faire un jeu de mots, c'est de faire un bon mot déplacé autour d'une table qui à la fois le fait rire, certainement, qui lui permet d'en parler, qui lui permet aussi de mettre tout le monde mal à l'aise parce qu'on sent qu'il prend un plaisir aussi à mettre mal à l'aise tout ce petit monde. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais dans ce qu'on a facilement appelé l'indicible de la Shoah, il y a aussi la peur de la réaction de l'autre, parce que c'est la honte aussi du rescapé qui a été poussé dans ses bassesses, dans les camps. Et voilà, on a forcément honte de partager ça avec son cercle plus intime. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la façon qu'il a de mettre les autres mal à l'aise, parce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise de toute façon des rescapés, mais aussi des gens qui doivent écouter leur histoire. Et lui installe ça autour de la table. Et donc voilà, généralement avec des blagues très très malvenues qui égrènent le texte. Et il est obsédé par ça. Pour lui, c'est quasiment un but. Notamment un épisode, l'une des soirées de Pessard, où il y avait une invitée en guest star, une correspondante allemande de sa petite fille. Donc voilà, il se réjouissait parce qu'enfin une correspondante allemande à table. Donc il avait tout préparé. Le problème, c'est qu'elle est d'origine turque et pas arienne. Donc voilà, il était très déçu de voir une jeune fille autant caramel autour de la table. Il a dû réviser toutes ses blagues très rapidement.
Mais il fait quand même ses blagues. Et d'ailleurs, je ne vais pas dévoiler, mais.
Oui, du coup, c'est une blague à laquelle je n'ai même pas de chute. Parce que voilà, il doit improviser. Quelle est la différence entre un mirador et un minaret? Même lui n'a pas la réponse et moi je ne l'ai pas non plus. Parce qu'il a dû improviser ça sur le coup. Il trouvait ça très drôle.
Mais on voit bien dans ce que vous dites le ton très particulier de ce livre. C'est-à-dire qu'on oscille sans cesse entre le drame et l'humour. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de très ashkénaze là-dedans.
Certainement, de toute façon, c'est la question de la douleur, de la place de la douleur, de qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on vit lorsqu'on porte sur ses épaules une telle douleur. Et puis plus généralement, je trouve que dans ce livre, ce qui m'a intéressé, et d'ailleurs Salomon le dit, à la perte de l'humanité a succédé à la perte de l'amour. C'est aussi cette question-là de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vécu l'horreur, qu'on a vécu la Shoah. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore aimer? Est-ce qu'on peut encore perdre l'amour? Est-ce qu'on peut encore pleurer d'avoir perdu son amour? Est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on ne peut pas rire? Est-ce qu'il est impossible de rire? Ce sont toutes ces questions qui se posent aussi sur l'après-Shoah. Donc voilà, c'est évidemment un livre sur le deuil et l'amour. C'est aussi un livre sur qu'est-ce qu'il est possible de faire après tout ça. Et moi, je trouve ça assez émouvant de voir Salomon détruit par la mort de Sarah. Alors que c'est un rescapé des camps, qu'il a perdu toute sa famille là-bas, qu'il a vu une forme de fin de l'humanité là-bas, et malgré tout il est dévasté par la mort de Sarah. Et je trouve ça magnifique, et c'était une des choses que j'ai voulu mettre en scène aussi dans ce livre. Il y a quelque chose d'extrêmement vital là-dedans, en fait, c'est-à-dire que quelqu'un a pu aimer si fort après ce qu'il a vécu dans les camps. Désolé, on a commencé à rire et je retourne vers des choses beaucoup plus dures. Mais voilà, ce sont ces questions-là que se posent forcément après le retour comme ça d'un rescapé. Pourra-t-il aimer? Pourra-t-il encore pleurer pour autre chose que la tragique Shoah?
Et c'est aussi, enfin, comment on transmet et à qui on transmet? Parce que l'une des questions qui se posent dans cette famille, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce récit? Qui peut l'entendre? Et on voit qu'il y a presque un saut de génération, c'est-à-dire qu'il arrive à parler à ses petits enfants. Alors c'est compliqué. Donc ses petits enfants s'appellent Tania et Samuel. Tania est une fille extrêmement rebelle qui arbore un kéfier en solidarité avec la cause palestinienne. Enfin tout ça est très compliqué, mais il peut avoir ce dialogue avec ses petits enfants, moins avec ses enfants.
Oui, le roman pose aussi la question justement de la transmission et éventuellement de la transmission à la génération d'après, pas aux enfants mais aux petits-enfants. Et alors là en l'occurrence, c'est plutôt sur le sujet de la Shoah, mais on pourrait parler de l'immigration, de la guerre d'Algérie, de plein de sujets comme ça. Et c'est intéressant de voir ce qu'un grand-parent peut dire à ses petits-enfants qu'il n'a pas dit à sa propre femme ou à ses propres filles, la façon qu'il a de leur parler, de les aimer éventuellement. Parce qu'il y a ça aussi, Salomon arrive à dire des mots à ses petits-enfants, à les toucher d'une certaine manière, alors qu'il n'a pas su dire à ses propres filles qu'il les aimait, par exemple. Alors c'est une question de génération, c'est une question peut-être d'homme, alors là je vais faire dans les clichés, hein, mais d'origine alsacienne, un peu germanique, un peu dur, comme ça, un peu froid. N'empêche qu'avec ses petits-enfants, il arrive à leur caresser le visage, il arrive à leur dire qu'il les aime, et il arrive à leur parler de la Shoah, en tout cas à aborder le sujet, alors qu'il n'arrivait pas forcément à la génération immédiatement après, la génération de ses propres filles.
c'est un peu difficile d'enchaîner, Pauline.
Les petits-enfants,
avec votre livre. Et là, on ne va pas réussir à trouver un lien. Mais je voudrais qu'on revienne à ces deux écritures assez différentes entre les deux parties de votre livre. On vous a entendu lire un extrait de la première partie. Est-ce que ce roman, vous l'avez écrit de manière linéaire, exactement dans le même mouvement, parce qu'on a le sentiment, en vous lisant, que la première partie, vous l'avez écrite très très vite, comme ça, dans une espèce dans le mouvement qui est celui de la passion, hein, quasiment ce que vit votre narratrice, et puis la deuxième partie, de manière plus douloureuse, plus lente aussi peut-être.
Oui, alors je l'ai écrit exactement dans l'ordre dans lequel on peut le trouver, c'est-à-dire ce prologue d'abord, en tout premier lieu, c'est une scène qui me tenait à cœur, j'avais envie d'écrire ça, donc c'est trois pages, c'est une espèce de prélude voilà, au texte, et puis ensuite deux parties, comme je disais, donc la première partie écrite oui, dans l'urgence de raconter le personnage, ce personnage qui fuit, qui s'en va, donc il fallait un rythme d'écriture qui soit dans la course un peu, dans la poursuite en tout cas, donc voilà, un rythme urgent, et du coup la première partie je l'ai très vite écrite, ça s'est passé assez vite, et puis j'ai laissé un peu, je savais ce que je voulais écrire dans la seconde partie, mais je savais qu'il me faudrait plus de temps, que ce serait plus long, et donc je voulais pour faire ça avoir de l'espace-temps, parce que alors il y a beaucoup d'écrivains qui arrivent à avoir cette pratique d'écriture quotidienne et etc. Moi ça, j'ai plus de mal, et du coup j'ai du mal à écrire un petit peu chaque jour. Voilà, ça c'est difficile pour moi. J'ai besoin de longs moments devant moi, de longues plages de temps. Et donc j'ai fait un peu comme j'ai pris. C'est marrant comme on peut faire corps avec son texte. C'est-à-dire que j'ai fait un peu comme la narratrice. Je me suis exilée, auto-exilée de ma propre vie. Alors pas comme je le raconte dans le livre au sujet de la narratrice, mais je suis allée à la campagne dans une maison, voilà, où j'avais charge d'âme, mais il s'agissait que de deux poules qu'il fallait que je nourrisse. Donc voilà, non mais c'est quand même différent par rapport à une vraie vie quotidienne où on a des enfants et tout. Là, il n'y avait plus que deux poules, donc c'était plus facile pour moi de une fois les poules nourries, bien sûr, hein, de me mettre au travail. Et donc voilà, j'ai passé du temps à écrire cette deuxième partie, et l'écriture s'en ressent parce que c'est une écriture qui est beaucoup plus qui se déplie plus, qui est dans la lenteur, qui correspond au chagrin. Quand on est vraiment, quand on a un chagrin, on a l'impression qu'on marche au ralenti, que ça pèse, quoi. Voilà.
Alors, précisons quand même, c'est votre premier roman, mais que vous aviez précédemment une pratique d'écriture à la première personne du singulier, que vous avez tenu ou vous tenez un journal. Voilà, que cette écriture du jeu, elle vous était familière.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout par mégalomanie. C'est juste que je dis souvent que j'ai aucune imagination, et je crois que c'est vrai. Enfin, vraiment, je serais incapable d'écrire un texte, par exemple, de science-fiction. Enfin, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. J'ai besoin de détails. J'ai besoin de voir, d'observer, d'écouter et de m'inspirer de la vie. Je trouve que la vie est foisonnante, qu'elle est merveilleuse, parce qu'il y a des aventures à tous les coins de rue. Il suffit de regarder ou d'écouter ou d'observer ou de voilà. Et donc c'est ça qui s'est passé avant, c'est-à-dire que j'écrivais des textes autofictionnels et puis de la poésie, mais de la poésie qui pouvait s'approcher. Enfin, moi, j'aime beaucoup Francis Ponge, par exemple, dans le sens où ce que j'aime, c'est, encore une fois, les détails, les petites choses du quotidien. Voilà, pas les grandes épopées. Ça, je pense que j'en serais incapable. Enfin, pour le moment.
Joachim Schneider, si on parle de votre méthode d'écriture, si vous en avez une, est-ce que ce livre, vous l'avez écrit dans l'ordre d'une traite, ou est-ce qu'il est fait d'une mosaïque de textes?
Alors moi, un peu comme Pauline, j'ai commencé au début, j'ai terminé à la fin. J'écris de manière linéaire. Oui, ça semble idiot comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des écrivains qui écrivent des petits bouts, qui reconstruisent. Moi, j'écris de manière très linéaire. Alors, pas de poule pour m'aider. Mais un peu comme toi, je pense, j'ai du mal à avoir la régularité, j'arrive pas à me dire tous les matins de 6 à 7 avec mon verre de whisky ou mon café, ça marche pas comme ça pour moi en tout cas, ça marche avec des écrivains. Du coup, c'est plutôt voilà, quand il y a du temps, et puis voilà, quand on a une heure par-ci, quand on a un petit moment par-là, un week-end, wow, on a deux jours entiers pour écrire. Donc voilà, j'essaie de saisir un peu ces moments-là. Mais voilà, c'est une écriture qui se fait au fil de la plume, tout en ayant en parallèle, moi je sais que je travaille avec un plan qui évolue en parallèle, je n'ai pas un plan de départ, mais plutôt un plan en puissance qui accompagne le roman pour essayer de, voilà, d'être souple, mais tout en ayant une direction.
Vous vous laissez quand même un peu surprendre.
Voilà, en fait, j'essaie de... Je suis à la fois obsédé par l'extrême cohérence des personnages. Donc, c'est quelque chose que je travaille très en amont, ça, l'extrême cohérence des personnages. Et après, je me laisse plutôt surprendre par eux. Je les mets dans des conditions parfois extrêmes. Enfin, le repas de famille, c'est pour moi la condition la plus extrême. Je les mets dans ce genre de conditions. C'est un peu sadique. Hein, mais de toute façon, l'écrivain est un peu sadique. Il crée des personnages pour les mettre dans des situations terribles. Et donc, moi, je les mets là-dedans et je les vois un peu évoluer. Et après, effectivement, de blagues néfastes en remarques atroces, les choses avancent. Ouais.
Sophie, est-ce que je peux poser une question à Joachim?
Bien sûr, avec grand plaisir.
Une blague, c'est ça?
Non, pas du tout. Mais souvent, on entend les écrivains dire que les personnages qui se mettent à vivre sans eux, etc., qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient telle ou telle réaction. Entre nous, enfin, on n'est pas entre nous, mais est-ce que toi, c'est ça qui s'est passé pour toi?
C'est un peu ça qui s'est passé, oui.
Donc ouais. C'est pas un mythe, en fait.
Ah non, c'est pas un mythe. Non, mais par exemple, c'est qu'une demi-blague, hein, sur le minaret et le mirador. J'ai vraiment pas de réponse. Enfin, il y a un moment où il se trouve que cette correspondante, pour d'autres raisons, devait être d'origine turque. Et en fait, Salomon a commencé à réagir comme ça. Il était paniqué, il avait prévu des blagues. Il était paniqué. Et moi-même, du coup, j'ai pas forcément trouvé de blague appropriée. C'est juste... moi-même, en tant qu'auteur, j'ai eu une sorte de panique parce que ce n'était pas prévu. Enfin, elle devait être blonde aux yeux bleus, c'était comme ça. Elle devait être grande, blonde aux yeux bleus. Et elle ne l'était pas. Donc ça arrive vraiment de se faire surprendre. Enfin, moi, en tout cas, je me suis fait surprendre par les personnages qui, à un moment, réagissent. Mais après, c'est une façon romantique de raconter les choses. On se fait surprendre par les personnages aussi parce qu'encore une fois, étant extrêmement cohérent parce qu'on les a maîtrisés dans leur construction, après, évidemment qu'ils réagissent comme ça. Ils ont une sorte de logique interne. C'est pas une magie de la littérature, c'est quasiment mécanique. C'est des personnages qui sont tellement complexes que lorsqu'on les met dans une situation, forcément ils vont réagir de telle ou telle manière, ils vont être même surpris, choqués, et voilà, il y a quelque chose de, je pense, de vital là-dedans, en fait. Oui.
Parce que là encore, il y a quelque chose d'extrêmement ritualisé, c'est-à-dire qu'il y a des réactions de vos personnages qu'on ne peut pas prévoir, en effet, mais il y en a qui se reproduisent strictement de la même manière d'année en année. Enfin, je pense par exemple à l'un des gendres de Salomon qui a des petits problèmes gastriques, on va dire.
Alors là, je dois saluer mon éditrice qui m'a fait enlever quelques passages parce qu'il allait un peu plus que ça avant aux toilettes, parce que l'un des gendres va aux toilettes lorsqu'il a des coups de stress autour de la table. Non, mais alors, il faut savoir aussi que c'est un roman qui est à cheval entre... Enfin, c'est un roman, certes, mais à cheval avec la comédie, avec certains codes très précis, bon, d'unité de lieu et de temps, évidemment, mais aussi avec des types. Alors, on peut y voir des clichés ou des lieux communs, mais moi, je préfère parler de types avec des personnages qui correspondent à certains codes, généralement comiques, et qui remplissent des fonctions à la fois rythmiques et narratives. Et donc, Patrick en fait partie, par exemple. Et voilà, effectivement, il aime se réfugier aux toilettes quand il y a un peu trop de stress autour de la table.
Et il est sourd et parfois il laisse tomber son sonotone dans les toilettes.
Et
du coup, la communication autour de la table.
Du coup, Salomon s'est obligé de faire d'autant plus de blagues vu que son gendre ne les entend pas.
Voilà, mais les deux gendres sont particulièrement des personnages comiques. Enfin, ils sont très chargés en potentiel comique, hein, puisque l'autre gendre, Pinas, et c'est Farhad.
Voilà, en fait, donc en gros, là, on fait vraiment dans les clichés. Hein, je suis désolé pour les concernés dans la salle. Mais donc, il y a Patrick qui est une sorte de cliché d'Ashkénaze névrosé, pusillanime, tout ce qu'on peut imaginer. Et Pinchas qui, à l'inverse, est haut en couleur, aime raconter des histoires, des bobards, aime en faire des tonnes tout le temps, mange salement. Tout ce qu'on peut imaginer d'un séfarade, évidemment. Je dis ça avec une forme de légitimité, hein, je suis un peu des deux. Voilà, même si mon patronyme n'est qu'alsacien, mais voilà, mes sourcils sombres, voilà, ça vient de l'autre côté de la Méditerranée, donc j'ai une forme de légitimité. Voilà, ma mère ne m'en voudra pas. Donc voilà, chacun en prend pour son grade, mais voilà, ce sont des figures, et je trouve que ça fait partie de la complexité de toute façon de la culture juive, parce qu'elle est alimentée de plein de cultures, en fait, de sous-cultures différentes. Et voilà, c'est ça aussi que je voulais montrer avec ces deux gendres qui sont caricaturaux et qui en même temps ont leur rôle dans cette famille. Et je peux me permettre de continuer encore un petit peu. Et pardon, le mec qui parle beaucoup. Et je reviens évidemment à la Shoah, parce que je parle beaucoup de la Shoah. Et c'est aussi par rapport à la Shoah, justement, avec ce Patrick que Salomon définit comme un... Là, il reprend. Enfin, là, pour le coup, c'est moi qui ai calqué un concept d'Alain Finkielkraut. Patrick est le juif imaginaire. C'est le juif qui s'est construit dans une certaine histoire du drame qu'est la Shoah, sans avoir été touché directement. Patrick n'a pas de déporté dans sa famille. Pinchas, a priori, était de l'autre côté de la Méditerranée à cette époque-là. Donc, enfin, sa famille, en tout cas.
À manger des sardines.
À manger des sardines. Alors, ça, c'est la seule blague qui m'a valu des remarques très méchantes. c'est pas une blague. Donc, les séfarades ont moins d'humour que les ashkénazes, apparemment. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Vraiment, les deux personnes qui m'ont fait des remarques là-dessus. Et donc, voilà. Donc, lui manger des sardines et Patrick n'a pas été déporté. Donc, c'est aussi une façon de montrer quel est le rapport du peuple juif à la Shoah. Même des personnes qui, a priori, n'ont pas eu de lien direct avec la Shoah, n'ont pas perdu de proches dans cette tragédie, doivent se positionnent par rapport à l'humour, par rapport à l'héritage, peu importe où ils étaient, peu importe leur culture. Oui.
Pauline, les trois premières pages de votre livre, le prologue, sont assez mystérieuses parce que vous maintenez le flou sur l'identité sexuelle de la personne aimée. Alors, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux femmes, mais du coup, ça donne à votre roman un aspect absolument universel.
Oui, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est trois pages où c'est une scène qui se passe la nuit où quelqu'un, on ne sait pas qui, regarde quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui non plus, en train de dormir ou mourir, et ça, on ne sait pas non plus. Donc voilà, beaucoup d'interrogations. Et en fait, on découvre à la dernière ligne qu'il s'agissait d'une femme, et on comprend très vite que l'autre est une femme aussi, et que c'est éventuellement leur dernière nuit d'amour. Et j'avais envie de ça parce que je voulais pas placer le roman tout de suite sous l'idée d'une histoire d'amour entre deux femmes. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait en premier lieu. J'avais envie de cette scène, voilà, presque, comment dire, ouais, presque biblique. Enfin, de quelque chose de qu'on soit frappé par ça et pas par l'idée, bah, ah tiens, c'est deux femmes, etc. Vraiment de qu'est-ce que ça fait de voir son amour peut-être passer sa dernière nuit, quoi.
C'est gay, hein, cette conversation. C'est vraiment sympa, quoi.
Vous êtes heureux, hein, d'être venu ici.
Et en même temps, au fil du livre, cet amour... on comprend la spécificité de cet amour et un amour hétérosexuel n'aurait pas été écrit de la même manière.
Ah oui, non, et puis j'avais pas du tout envie de dire ça, surtout. Ça m'intéressait pas. Non, moi, ce que je voulais, c'était, comme je l'ai dit, non seulement... c'était très important que ce soit un amour homosexuel pour moi, aussi parce qu'il y avait ce contexte-là de la surprise de l'amour. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'un coup de se rendre compte qu'en fait... ce qui est devenu, j'espère en tout cas, un lieu commun, que l'amour n'a pas de sexe, n'a pas d'âge, n'a pas de voilà. Mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur de soi de se rendre compte de ça ? Qu'en fait, on peut mener sa vie voilà tranquillement et que d'un coup, mais vraiment d'un coup, quelqu'un ouvre une porte et puis là, le monde ne sera plus jamais le même quoi.
Quelle est l'importance de la musique dans la structure de ce livre ? Alors, Sarah est musicienne, donc la musique est présente de cette manière-là, mais dans l'écriture et dans la structure du livre, la musicalité est présente. Vous n'êtes pas musicienne ?
Alors, je suis une très mauvaise musicienne. Voilà. J'ai essayé, je me suis accrochée, je suis allée au conservatoire, mes parents m'ont poussée, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais, par ailleurs, et sans vouloir paraître trop audacieuse ou présomptueuse, j'ai voulu construire un peu le livre avec une architecture musicale, dans le sens où j'ai voulu et parsemer le texte de leitmotifs qui reviennent ou de grands thèmes, de grandes phrases comme ça, de grandes nuances, comme on peut l'entendre dans des morceaux de musique qui peuvent revenir sur un thème mineur alors qu'on les avait entendus en majeur ou l'inverse. Voilà, et j'ai essayé de faire un jeu de miroir entre les deux parties. C'est-à-dire qu'on retrouve des choses à Trieste, des choses de leur histoire d'amour qui sont décrites dans la première partie. Puis voilà, et voilà, un peu comme un morceau de musique en fait.
Parce qu'en effet, la structure du livre, c'est thème et variation, et c'est aussi un jeu d'opposition assez fort, l'amour, le désamour, Paris, la banlieue, enfin voilà, il y a toute une série comme ça d'oppositions.
Oui, et puis Sarah est la narratrice, c'est-à-dire qu'a priori, c'est quand même deux femmes que tout oppose. Voilà. Elles n'ont pas le même âge, elles ne font pas du tout le même genre de métier, elles n'étaient pas du tout appelées à se rencontrer. Elles ne vivent pas la vie de la même manière, c'est-à-dire que la narratrice, elle est maman d'une petite fille, elle a une vie assez rangée, elle s'ennuie un peu, alors que Sarah, c'est un être flamboyant qui court toujours, complètement inattrapable, qui va de... Donc, elle est violoniste, hein, dans le roman, c'est son métier, mais violoniste assez virtuose pour pouvoir faire des tournées. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui revient,
qui fuit,
et qui est vraiment le contraire de la narratrice qui, elle, est plutôt sédentaire, en fait.
Voilà, elle est plus ancrée, oui, en effet.
Ancrée,
oui. Elle est plus ancrée, mais elle va partir, elle va fuir, elle aussi, dans la deuxième partie.
Ben, en fait, la première partie, c'est vraiment tournée vers ce portrait du personnage de Sarah. Et la narratrice est un peu en retrait, elle est un peu dans l'observation, dans l'admiration, voilà. Et elle prend corps en tant que personnage elle-même. Dans la deuxième partie, quand elle prend cette décision, voilà, elle décide... de partir. Et là, elle accède elle-même au statut de personnage. C'est quand elle s'en va.
Pour quelles raisons avez-vous choisi Trieste comme lieu de fuite? Alors, pas tout de suite Trieste, hein, puisque elle va prendre un avion un peu au hasard en prenant en gros le billet le moins cher. Elle se retrouve à Milan et puis là, elle va rencontrer chez une amie commune un couple de Slovènes, je crois, qui ont un appartement à Trieste, un vieil appartement un peu délabré qui appartient au grand-père de la femme. Et puis voilà, ils vont lui laisser les clés comme ça. Pourquoi cette ville de Trieste? Parce que c'est une ville carrefour, hein, une ville très littéraire aussi.
Ben c'est un non-lieu, Trieste, pour moi. C'est une ville on ne sait pas dans quel pays ça se trouve exactement. Alors, c'est italien, mais il y a des influences autrichiennes, beaucoup. Dans les rues, on entend vraiment parler toutes les langues. Et c'est pas... c'est pas des touristes, hein. Je veux dire, c'est vraiment une ville cosmopolite. Les architectures, c'est pareil. Il y a une synagogue qui jouxte une église, etc. Et enfin, vraiment, on comprend rien. Voilà, on ne sait pas. On est là, on ne sait pas où on est. Et puis il y a la mer. Et donc, je voulais une ville au bord de la mer. C'était très important. Là, il y a la mer Adriatique, et c'est une très belle mer.
Mais ce n'est pas l'Italie solaire.
C'est pas l'Italie carte postale.
Tout le contraire.
C'est ni Rome, c'est ni... voilà. Il se trouve qu'à un moment, les deux personnages vont à Venise. Donc, il y a quand même d'autres villes d'Italie. Mais là, je voulais une Italie qu'on ne connaît pas et pour un chagrin qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, pour quelque chose qui soit... une ville qui soit à la hauteur du chagrin d'amour.
Mais au fond, ce qui frappe, c'est que... Elle part dans cette ville et au fond l'objectif n'est pas d'oublier cette passion. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que la passion est terminée ou une fois que la rupture est consommée? Est-ce qu'on essaie d'oublier ou est-ce qu'on marine dans son chagrin? Enfin, il y a cette ambiguïté là.
Ben c'est là où on se rapproche encore.
C'est là où vous rapprochez.
Comment on peut continuer à vivre une fois qu'on a perdu l'amour, en tout cas l'amour d'une vie, qu'est-ce qui reste, quoi? Et donc il reste les souvenirs, évidemment. Et puis, en fait, le personnage dans la seconde partie n'arrête pas de se dire la vie sans elle, c'est quand même encore la vie. Ouais. Mais c'est sur le papier, c'est ce qu'elle se raconte. Puis en fait, rien n'a de saveur, quoi. C'est-à-dire, elle marche dans cette Italie qui est sublime, dans cette ville qui est incroyable. Elle voit bien que c'est incroyable. Et pour autant... la vie est trop difficile à vivre.
Parce que dans votre cas, Joachim Schnerf, Salomon veut surtout ne pas oublier Sarah et il sent l'image comme ça qui s'efface et il veut garder, en fait. Hein, c'est ça son obsession.
Sa grande angoisse, en fait, ouais. C'est d'oublier les traits de Sarah, ouais. Parce que elle est décédée. Les dernières images qu'il a d'elle, alors il y a les souvenirs évidemment, mais il y a les dernières images. C'est la terre, c'est la terre avec laquelle il a recouvert son corps. Donc c'est à la fois une image, une sensation. Et donc il est obsédé parce qu'il a recouvert ce visage symboliquement en tout cas. Et il est obsédé par la peur de ne plus s'en souvenir. Donc voilà, il garde une photo que tous les matins il va voir parce que pour lui c'est important. Et c'est sa grande peur, oublier Sarah. Alors il le dit lui-même, il essaye justement de la raccrocher un peu partout dans sa chambre. Il essaie de raccrocher ses yeux à la lampe. Enfin, il essaye voilà de l'éparpiller. Alors il faut aussi savoir qu'il est évidemment obsédé par les nazis et il a peur que les nazis l'emportent de toute façon. Donc voilà, il préfère la démembrer, la mettre un peu partout dans sa maison pour être sûr de bien la garder, de bien s'en souvenir et que personne jamais ne la lui vole complètement.
Et on parlait tout à l'heure de la question de la transmission. On peut aussi parler de l'héritage. L'héritage, cette question se pose dans cette famille à la fois au sens patrimonial, mais au sens plus symbolique.
Oui, c'est l'héritage de toute façon. Voilà, quand quelqu'un part, qu'est-ce qu'il laisse ? Qu'est-ce que vont faire les vivants de cet héritage-là ? Et puis lorsqu'il y a des enfants, des petits-enfants, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte des restes de la personne qui est partie, parce que ce n'est qu'une image et en même temps c'est quelqu'un, là en l'occurrence Sarah, qui était la pierre angulaire d'une famille, donc elle a disparu, tout pourrait exploser, donc voilà ce qu'elle laisse, c'est aussi ce ciment là, cette possibilité de se retrouver autour d'une table, parce que une des choses qui m'a intéressé avec ce roman, c'est voir aussi comment les gens réagissent au deuil et comment les gens réagissent au départ d'une personne aimée, en l'occurrence la mère par exemple pour les deux filles, une grand-mère pour les petits-enfants. Voilà, quand la pierre angulaire d'une famille part, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout explose ? Est-ce qu'on arrive quand même à s'asseoir autour d'une table ? Et c'est un des enjeux du livre aussi. Mmh. Est-ce qu'ils vont arriver à célébrer cette fête de Pâques ensemble ? Et éventuellement, si Salomon un jour disparaît, est-ce qu'ils vont réussir quand même à garder cette vie de famille ? Ou est-ce que tout va voler en éclats et que chacun partira de son côté, parce que les tensions sont telles dans la famille que sans ce liant d'amour, on se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir advenir.
Parce que cette famille, au fond, elle est comme un corps, et un corps auquel on a arraché l'un de ses membres.
Exactement, et c'est exactement ça, on a amputé cette famille. Et chaque membre, d'une certaine manière, se retrouve orphelin. Parce qu'il y a quelque chose de vital, enfin, ils étaient obligés d'être liés par cette Sarah qui n'est plus là, et donc voilà, ils vont devoir trouver un moyen. Est-ce que chacun va devoir prendre un nouveau rôle? C'est tout bête, mais on parle d'un repas, qui va s'asseoir à côté de Salomon, parce que c'était Sarah qui s'asseyait à côté de lui, mais Sarah était assise entre lui et Samuel, le petit garçon. Qui va s'asseoir à côté de Samuel, qui va lui caresser la joue, qui va dans la cuisine parler discrètement à Patrick pour le calmer. Voilà, qui va être cette personne qui permettait à la soirée de bien se dérouler. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent parce qu'on a parlé du deuil intime, mais aussi le deuil familial. C'est encore autre chose parce que là, c'est Salomon qui a perdu la femme qu'il aime. Mais c'est effectivement aussi une famille qui a perdu encore une fois ce liant d'amour qui permettait aux soirées de se dérouler finalement.
Mais enfin, voilà, cette question du deuil et de la perte, elle est vraiment présente dans votre livre aussi, alors de manière beaucoup plus allégorique. Mais voilà, il y a la mort de l'amour, c'est la mort symbolique de la personne aimée.
Oui, et ce qui reste, enfin, dans mon livre, pour le coup, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de petits-enfants, ce qui reste, c'est la narration, c'est ce ressassement, c'est cette obsession, ce titre-là, ça raconte Sarah, voilà, pour ne pas oublier, eh ben, raconter. Et pour raconter, et passer par, voilà, par le, là, dans mon cas, par l'exil, par le... Mais c'est un grand livre, enfin, c'est un grand livre sur l'obsession, en fait, plutôt que sur le... Ouais, plutôt que sur le souvenir, plutôt sur l'obsession, comment encore malgré l'absence sur la survivance du vivant, malgré l'absence physique.
Je sais que vous avez beaucoup lu Annie Ernaux, vous aimez beaucoup Annie Ernaux, elle a précisément écrit un livre qui s'appelle L'Occupation et ça parle de ça au fond.
Oui, alors surtout il me semble que dans L'Occupation c'est pas le livre sur la maîtresse de son... Il me semble que c'est elle est complètement obsédée par la jalousie, non c'est...
Oui, oui, ouais, c'est la jalousie, et puis il y a une chose avec l'occupation d'un lieu.
D'un lieu, enfin, voilà. Oui, il y a un parallèle, donc c'est pas tout à fait
l'occupation mentale.
Ouais, enfin, complètement. Oui, oui.
La place énorme que prend la passion dans une vie.
Et toute la place. Et c'est ça le problème, quoi.
Et voilà, il y a de la place absolument pour rien d'autre. Et il y a deux mots qui reviennent, enfin l'un dans la première partie, l'autre dans la deuxième, c'est latence. Et vraiment, la première partie, on a en effet l'impression qu'elle est entre parenthèses.
Voilà, tout est... Dès lors que la narratrice rencontre le personnage de Sarah, plus rien n'a d'importance, quoi. C'est l'obsession complète. Donc on laisse de côté la vie telle qu'elle était, et on se rend bien compte en même temps qu'on va pas pouvoir vivre toute la vie comme ça, qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, et on sait pas quoi, et que sinon ça va mener au désastre.
La fin du roman c'est pas du tout réparateur, en fait, hein. Enfin, c'est comme une explosion, en fait, la fin de ce livre.
Ça a l'air complètement sordide, hein, dit comme ça, mais c'est... la fin du roman, c'est une question ouverte encore, comme le prélude, on ne sait pas ce qui s'est passé, et c'est assez touchant, parce que moi j'ai eu des lectrices et des lecteurs qui m'ont, enfin chacun a sa lecture de cette fin, voilà, donc moi j'ai pas envie de donner ma propre clé, je le dis pas, mais en tout cas la question est ouverte, quoi.
Je parlais tout à l'heure d'Annie Ernaux. Il paraît qu'il faut pas poser la question des influences, mais je vais quand même vous la poser. Enfin, il y a quelques auteurs comme ça qu'on sent en filigrane dans ce roman. Il y a Hervé Guibert notamment. Je crois qu'il a été important pour vous. Marguerite Duras, je ne sais pas si.
Hervé Guibert a été très important parce que j'ai lu il y a quelques années déjà Fou de Vincent, qui est un texte sur la passion aussi. Et avec cette phrase que j'aime beaucoup, en une phrase, il explique ce que c'est. Il dit qu'est-ce que c'était. Alors déjà, il s'interroge qu'est-ce que c'était que cette chose-là qui m'arrive. Est-ce que c'était un amour, une rencontre, une obsession érotique ou une de mes inventions? Et moi, j'adore ça. J'adore ou une de mes inventions, parce que il y a un moment où, quand on vit ce genre de choses, c'est tellement intense, tellement extraordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire hors de la réalité, qu'on se demande finalement si c'est pas de la fiction qu'on se fait, quoi. C'est un truc qu'on se raconte à soi-même et tout ça. Et donc ça, c'est un peu en filigrane dans le texte aussi. Et c'est est-ce que c'est bien réel? Est-ce qu'on peut toucher ça du doigt? Et si oui, comment on peut l'écrire? Est-ce que c'est possible d'écrire ça, ce sentiment-là?
Joachim Schirff, est-ce que certains auteurs vous accompagnent soit depuis toujours, soit spécifiquement pour l'écriture de ce livre, ou est-ce qu'au contraire vous mettez à distance pendant l'écriture?
Alors pendant l'écriture, je mets à distance, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui sont digérées, évidemment. Enfin, évidemment Albert Cohen, qui est omniprésent dans le livre, soit par clin d'œil, mais même par l'esprit. Après, il y a beaucoup de choses qui ont nourri, mais qu'on ne peut pas voir dans le livre, mais je sais pas, des auteurs importants pour moi comme Coetzee ou il y a un petit clin d'œil à Disgrâce dans le livre, je sais pas, Karen Blixen, beaucoup de littérature étrangère, voilà, des auteurs importants pour moi, qui, soit par clin d'œil, sont remerciés, mais bon, c'est des choses qui me nourrissent plus qu'autre chose. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément de lien entre ces œuvres-là, c'est juste des auteurs qui ont eux-mêmes des obsessions. Je pense aussi à un auteur islandais, Jon Kalman Stefansson, dont Asta est publié à la rentrée, qui est un auteur pour moi, l'un des auteurs contemporains qui parle le mieux d'amour. Voilà, c'est des auteurs comme ça qui forcément me nourrissent et voilà, ont permis après de passer à l'acte d'écriture.
Votre livre se termine plutôt sur un apaisement, sur une pensée de l'après, au fond.
Encore un point commun, on n'arrête pas. La fin est assez ouverte parce que c'est un apaisement, c'est une libération, c'est peut-être une petite mort, je ne sais pas trop. La fin est assez ouverte, mais moi je ne suis pas certain de savoir quel est le point final. Mais c'est sûr qu'à la fin, il y a de la musique, il y a de la poésie. Il s'envole, c'est le monde. Alors il est à moitié en train de s'endormir, donc on ne sait pas s'il s'envole vers ses rêves, s'il s'envole vers la mort. Il y a des images, Il y a sa fille qui est en train d'arriver chez lui pour l'aider à préparer la soirée, mais il ne sait plus trop si c'est sa fille ou sa femme qui est à côté de lui. Il ne sait même plus si c'est son petit-fils, en fait, parce qu'il fantasmait ce petit-fils qui viendrait lui faire un câlin au terme de la prochaine Pâques. Donc tout se mélange. Et voilà, j'ai... Autant je pense que les choses sont assez claires dans le texte, la narration est peut-être assez peut-être déconstruite, mais quand même assez linéaire. À la fin, il y a quelque chose de l'ordre de la folie qui est quasiment une poésie du départ. Voilà, des départs, encore une fois, je ne sais pas si c'est vers la mort ou simplement vers le rêve, mais voilà, un départ.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques de lecture pour ceux qui ont lu ? Oui.
Vous avez dit que la fin était
lourde. J'ai pas dit lourde, monsieur, j'ai pas employé ce mot, je me serais pas permis.
C'est difficile. En fait, moi j'ai bien aimé parce que pour moi la fin c'est l'envoi du téléphone portable dans la nature, c'est-à-dire abandonne en fait tout ce qui la préoccupe par ailleurs par rapport à l'amour de Sarah, donc elle jette tout.
Vous voulez répondre ?
Elle jette tous les liens qu'elle avait avec enfin les préoccupations. On a souvent on pense aux enfants, on pense à sa mère, on pense à son père, et puis on prend le téléphone et ça n'arrête pas. On est tous connectés, comme on dit.
Je sais pas. D'accord. C'est plutôt une remarque qu'une question. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres ? Oui, madame.
Merci. Bonjour, non, ce n'est pas une question. Alors, dans le livre de Pauline, qui est écrit en deux parties, vous avez voulu donner un certain rythme, et j'avoue que le rythme que vous avez voulu donner a été réussi sur moi. Que la première partie, j'avais besoin de me poser, mais je vivais à 100 à l'heure, comme vos deux femmes. J'aurais aimé un peu souffler, ce n'est pas possible. La deuxième partie, j'étais plombée, j'avais plus d'énergie. J'arrivais pas à finir le livre, voilà. Donc le rythme que vous avez voulu donner, enfin sur moi lectrice, ça a vraiment marché. Et je voulais vous dire aussi que l'écriture est très très belle de votre livre, voilà.
Je vous remercie. Est-ce que vous l'avez terminé finalement ?
Ah oui.
Oui. D'accord. Et avant vous êtes toujours là. Donc c'est bien.
Oui, d'accord. Oui. Mais quand même par rapport à ce que disait ce monsieur là, qu'elle a tout balancé. Moi, je trouve dur qu'elle ait oublié son enfant. Voilà, bon.
Oui, alors j'ai souvent...
C'est mon avis personnel.
Non, mais c'est une remarque qui revient souvent. Et voilà, mais je crois que c'était important. C'était ça que j'avais envie de raconter, en tout cas. Et voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me disent, mais enfin... voilà, c'est pour le coup, si mon personnage m'a dépassée, là, à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure, c'est...
Non, mais... Vous avez très bien décrit cet immense chagrin. Voilà, ça c'est vrai.
Bon, merci en tout cas.
Non, il n'y a plus de questions ? Non ? Alors voilà, la pluie sonne la fin de cette rencontre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour votre attention. Et nous vous invitons comme toujours à une séance de signature organisée par la librairie. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.